Vous écoutez France Culture.
Le savon noir. Les chroniqueurs médiévaux ont souvent relaté le Japon comme un monde à l'envers. Je garderai aujourd'hui l'expression, tant la société féodale japonaise, ses classes de guerriers, ses samouraïs et l'état shogunal sont à l'écart de notre monde. Et si cela ne datait pas d'hier, tel est le sujet de notre salon noir. Que connaissent les archéologues européens du passé le plus ancien de ce Japon ? Probablement les Aïnous de l'île d'Hokkaido pour leur particularité anthropologique, peut-être les périodes Yaoi et Kofun, mais surtout la culture Jomon, tant elle leur paraît particulière. Certains y voient un paradoxe, d'autres un contre-exemple, les derniers un modèle alternatif. Quoi qu'il en soit, Laurent Nespoulou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO, et notamment au Centre d'études japonaises. Vous avez longtemps séjourné au Japon, vous avez réalisé votre doctorat sur la genèse de l'agriculture à la formation des sociétés archaïques complexes. Laurent Nespoulou, les Japonais s'intéressent-ils à leur passé ancien ?
Ils sont soucieux de leur passé et soucieux d'avoir des racines.
Et quelle période plus particulière les intéresse ?
Ça sera en fonction des régions de l'archipel, puisque l'archipel est un archipel fort long, hein, puisqu'il fait plus de 2000 km de long. Et c'est donc, comme beaucoup de pays avec beaucoup de régions, un pays qui se donne des identités régionales. Et en fonction des régions, ce sera plutôt Jomon, d'autres ce sera plutôt Yayoi, d'autres ce sera plutôt un accent mis sur la culture antique, d'autres ce sera plus le Moyen-Âge.
Donc il existe une sorte de processus d'auto-représentation identitaire à partir de ce passé ?
Absolument.
Comme nous, les Gaulois
On peut tout à fait dresser le parallèle. C'est vrai qu'il y a peut-être un décalage chronologique dans ces problématiques-là, puisque le Japon est toujours dans des problématiques où l'on se pose qui était la question du qui étaient nos ancêtres, chose qui en France peut-être n'a plus en tout cas autant cours qu'autrefois. Pour le Japon, c'est toujours quelque chose qui est assez d'actualité, et les Japonais sont des gens qui se pensent, je pense d'une manière générale en tout cas, sont des gens qui se pensent par rapport à un passé, par rapport à des racines bien enfouies dans le sol de leur archipel.
Dans ces cas-là, qui sont les ancêtres des Japonais ?
C'est une bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Oui, ce sera tantôt, encore une fois, les gens du Jomon, tantôt ces premiers agriculteurs qui suivent donc le grand continuum chronologique du Jomon, qu'on appelle les Yayoi. Et bon, pour beaucoup maintenant, c'est un peu le mélange des deux, à savoir qu'un Japonais, par définition, sera un mélange culturel et biologique, hein, tout ça dans le discours japonais actuel, des gens de la culture Jomon et des gens de la culture Yayoi.
Et puis il y a le passé mythique, le passé lié à l'empereur, oui, aux origines.
Celui des textes anciens, des textes antiques. C'est vrai que l'archéologie a pendant longtemps, en tout cas pendant ses premiers pas au Japon, insisté beaucoup sur le passé impérial. Moi, j'aurais tendance à dire que maintenant, l'archéologie a un petit peu contourné ces problématiques et qu'on, non pas qu'elle ne soit pas importante, mais qu'on a tendance à s'atteler vraiment à l'étude du mobilier archéologique, du matériel archéologique, des sites archéologiques, et que forcément, on se rend compte qu'il y a une histoire avant l'empereur dans l'archipel. Il y a un Japon d'avant le Japon, si vous voulez.
Et ce Japon d'avant le Japon, c'est probablement le Jomon dont nous allons parler ?
Ça en fait partie, il n'y a pas de doute là-dessus.
À quand remontent les plus anciennes occupations du Japon ?
Alors c'est le paléolithique supérieur. Hein. Pour l'instant, les dates qui sont avancées, on est autour de moins 30 000, moins 35 000. Hein.
Donc des gens arrivaient par
des
la
gens
mer.
Arrivaient, alors à l'époque, on peut traverser à pied. C'est un des avantages puisqu'il fait très froid sur notre planète, en tout cas dans l'hémisphère nord. Et donc effectivement, des groupes dont il est assez difficile de dire en quel nombre ils ont fait la traversée, sont donc venus du continent sur ce qui allait devenir un jour un archipel.
Deux mots peut-être sur l'archéologue Fujimura. L'anecdote vaut bien sûr d'être racontée puisque nous sommes aussi sur l'identité du Japon.
Oui, alors oui, effectivement, cet archéologue qui avait caché des vestiges archéologiques dans des couches géologiques toujours plus anciennes afin de faire remonter l'occupation humaine. Humaine encore, on pourrait nuancer, hein. Là, il ne s'agit pas d'Homo sapiens mais d'Homo erectus dans le cas de Fujimura, donc on remonte toujours plus avant dans le temps, et avait essayé donc de faire croire à l'existence d'une espèce de super Homo erectus dans l'archipel, capable de tailler l'obsidienne comme la tailleront les gens du Jaumont, de construire des maisons. Et effectivement, ce monsieur a été pris en flagrant délit de falsification puisqu'il plaçait lui-même les vestiges d'époque ultérieure dans les couches géologiques plus anciennes qui lui permettaient de dire après que Super Homo Erectus avait existé.
Il y a d'ailleurs, on signale pour les auditeurs, un Tony Lehrman sur le sujet, du moins se passant en Amérique avec exactement le même processus. On peut penser que Fujimura a subi une forte pression des Japonais, que l'enjeu était absolument capital de remonter sur une sorte de super Homo erectus japonais.
Alors, alors c'est vrai qu'il n'y a aucun doute, en tout cas, que pour Fujimura, c'était quelque chose de capital. Il est évident que si ces découvertes ont pu être découvertes avec des guillemets, ont eu un tel retentissement à l'époque au Japon, puisqu'elles se sont très très vite retrouvées dans les manuels scolaires, sans un véritable processus en plus de mise à l'épreuve scientifique de ces découvertes, ce qui a posé problème après coup. Effectivement, c'est que donc il y avait quelque part une demande sociale, je ne sais pas si on peut formuler les choses autrement. Maintenant, est-ce que les Japonais très clairement formulé la chose ? Ça, certainement pas. Il se trouve que ça a eu un écho, que ça rentrait dans un certain nombre de préoccupations, celle des racines, finalement, de l'occupation de l'archipel. Alors pourtant même que Homo erectus n'a rien à voir avec nous, si j'ose dire. Hein. Donc, il y a quelque part... oui, c'est les ancêtres, sauf qu'en fait, même si ça avait été un vrai Homo erectus et qu'il était intellectuellement fort, fort développé, de toute façon, ça n'avait pas grand-chose à voir, finalement, avec l'histoire d'Homo sapiens dans l'archipel japonais.
En tout cas, le monde archéologique est aussi un monde terrible et on peut penser que Fujimura est tombé à cause de ses confrères.
Oui, il est monté très haut et plus dur en a été la chute.
Il y a 12 000 ans émerge dans le Japon préhistorique une culture très particulière, le Jaumon. De quoi s'agit-il et où puissent-elles ses origines ?
Alors, c'est très compliqué, puisqu'effectivement, ça commence effectivement il y a 12 000 ans. Ça dure, dit-on, puisque c'est la chronologie que l'on donne au Jaumon, 10 000 ans. Évidemment, on ne peut pas définir 10 000 ans d'existence de société.
D'une culture.
C'est très, très difficile. C'est même... on peut évidemment... mettre en évidence des lignes de rupture comme des lignes de continuité, mais c'est pas, on peut le faire pour tout et un peu n'importe quoi quand même. Non, l'origine de ces groupes, elle vient effectivement, en tout cas avec l'histoire du peuplement de l'archipel japonais au cours de la fin du paléolithique, d'une rencontre entre des courants plus du nord du continent asiatique avec des courants un petit peu plus médians, qui se sont rencontrés au cœur de l'archipel, et puis de là, à la fin de la glaciation, se sont développées des sociétés un petit peu originales, dans leur mode de survie.
12 000 ans, c'est un climat aussi qui change. C'est aussi un climat qui est assez favorable.
C'est un climat qui va devenir de plus en plus favorable, puisque on parle beaucoup de réchauffement climatique de nos jours. Bah oui, il y a 12 000 ans, enfin avec la fin du dernier âge glaciaire, petit à petit, la température va monter, les précipitations vont augmenter et vont se développer des niches écologiques qui n'existaient pas évidemment avant, et dans lesquels les groupes humains vont opérer leur prédation et vont s'organiser de manière à être le plus efficace possible dans ces nouvelles niches écologiques qui vont s'avérer devenir de plus en plus riches jusqu'à ce qu'un jour la température se remette à nouveau à baisser pour arriver à la situation qui est un petit peu la nôtre depuis maintenant quand même un petit moment.
Laurent Nespoulou, la première caractéristique de ce Jaumont est sans nul doute l'apparition de la céramique. Cette céramique si caractéristique de cette période, de cette très longue période. Et d'ailleurs, on pourra discuter de la typologie de ces céramiques, oui, qui sont si particulières, si belles d'ailleurs.
Alors oui, effectivement, c'est la caractéristique de la culture même, puisque Jaumont en japonais, littéralement, veut dire céramique à décor en impression de cordes. Donc le nom de la période s'inspire du nom, en fait, du type de poterie. Par conséquent, oui, on peut dire que la céramique illustre tout à fait bien cette culture. Et c'est en plus un des éléments culturels qui, au sein de la chronologie de toute la période, apparaît en premier. Le matériel lithique, puis la céramique et un outillage lithique qui entoure cette céramique à date très 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 haute, date que vous avez évoquée tout à l'heure. Et puis, petit à petit, on va évoluer, se complexifier avec l'habitat, des logiques de prédation qui sont des logiques de prédation sédentaire.
Alors, ce que l'on voit très souvent pour la céramique, et quand on parle de céramique Jaumont, on parle du Jaumont moyen, ça date environ de 2500 avant notre ère, et ce sont des céramiques, je vais dire, extrêmement baroques, et voire même une statuaire, une très belle statuaire, qui est peut-être un petit peu plus tardive.
Alors, effectivement, la poterie est donc très ancienne, mais c'est vrai que la poterie que vous verrez, d'une manière générale, dans les expositions sur le Jaumont, il y a eu une exposition il y a quelques années, maintenant
12 ans.
Voilà, 12 ans à la
Maison du Japon.
À la Maison du Japon, de l'autre côté de la Seine. Il y en a une il n'y a pas tellement longtemps non plus à Londres. Et c'est vrai que généralement, ce qu'on voit dans ces expositions, c'est beaucoup de poterie de cette phase moyenne de la période Jaumont, la fin de la phase ancienne, cette phase moyenne, où on a une belle poterie d'un point de vue esthétique. On peut la montrer aux gens, elle est jolie.
Et cela veut-il dire que la plus ancienne est vraiment pas terrible ?
C'est surtout que la plus ancienne est forcément moins bien conservée, enfin souvent moins bien conservée. Et c'est vrai qu'elle offre quand même infiniment moins de décors plastiques, hein, tous ces décors plastiques, cette céramique un peu tarabiscotée. Oui, c'est au Jaumont moyen et récent qu'on voit un peu éclater ces styles sur le plan plastique.
La Chine, en tout cas, aurait aussi vu des sociétés de chasseurs-collecteurs utiliser la poterie ?
Alors, ce sont des. Alors là, il y a toujours des problèmes de chronologie, mais oui, la Chine a eu, en tout cas, dans les parties les plus au nord. Mais bon, plutôt que de parler de Chine, il faudrait parler du nord du continent chinois. On pourrait parler de la Sibérie, on pourrait parler du fleuve Amour, on pourrait parler de ses rives, hein, de la mer du Japon, et puis au-delà des mers plus au nord, qui semblent avoir accueilli des sociétés de chasseurs-collecteurs à céramique, avec céramique, ayant également une pratique d'amas coquillés comme on la retrouve dans l'archipel. Par conséquent, c'est vrai que le découpage géopolitique depuis maintenant quand même quelques siècles nous fait penser l'archipel en tant qu'archipel, c'est vrai. Et donc, qui dit Jaumont dit archipel japonais, mais en réalité, si on élargit un petit peu le périmètre de vision, on se rend compte que même si ce n'est pas tout à fait la même chose dans le continent, il y a quand même des dynamiques à saisir dans leur ensemble régional.
Pour le Japon, posséder la plus vieille production céramique à constituer, constitue peut-être même encore quelque chose de très important, toujours de quelque chose de très identitaire. J'ai souvenir, dans la fin des années 90, il était clair que la plus vieille céramique était forcément Jaumont, du moins pour les Japonais.
Pour tout le monde, en fait, puisque à la fin des années 90, c'est vrai que le Japon étant quand même un paysage extrêmement bien fouillé sur le plan archéologique, on a une documentation très très riche, et on a pu dater des tessons de céramique. Ce sont ces tessons qui remontent effectivement à, il y a plus de 10 000 ans. Bon, il se trouve que depuis, avec la levée de la chape de plomb sur certaines régions du monde dans lesquelles on ne pouvait pas forcément beaucoup aller travailler, en tout cas quand on venait ou d'Europe, de l'Ouest ou du Japon, ben on découvre que finalement, les choses sont peut-être plus compliquées que ça et que sans doute on peut remonter encore plus loin dans le temps, peut-être pas de beaucoup, mais quand même un peu plus loin dans le temps, une fois qu'on est de l'autre côté, sur le continent.
La Corée pourrait être aussi un terrain très intéressant.
La Corée du Nord, évidemment, serait un terrain extrêmement intéressant, mais je pense que pour l'instant, les Coréens du Nord sont occupés à d'autres aventures.
Les Jaumont ne possèdent pas d'agriculture à proprement parler. Pourtant, ils possèdent un matériel de broyage très proche de celui utilisé par les agriculteurs.
Oui, vous faites référence à tout cet outillage de meule qui servait... non pas dans le cadre de la culture Jaumont à moudre donc du blé ou de l'orge, mais à moudre en fait, oui, des glands, des châtaignes, des marrons, tout ce qui était finalement récolté dans la forêt, et qui, de fait, est un mobilier qu'on retrouve dans beaucoup de sociétés agraires qui ont besoin de moudre ce qu'elles produisent.
Et quelques éléments comme l'orge, voire peut-être le riz, sont malgré tout connus des sociétés Jaumont.
Alors oui, c'est un des éléments peut-être les plus intéressants, enfin, en tout cas moi qui m'intéresse le plus dans ce grand continuum Jaumont, c'est que vient un moment où on peut tout à fait attester la présence dans l'archipel japonais de variétés domestiques provenant du continent qui... normalement, dans notre monde connu, font l'objet d'une agriculture, d'une politique, entre guillemets, de production. Bah, dans le cadre de l'archipel japonais, on est plus davantage face à des jardiniers qui, en plus de leur prédation sur le milieu, de temps en temps, ont recours donc à la pratique de la culture d'un petit jardin dans lequel on va trouver des espèces assez variées. Ces sociétés ne viendront jamais... n'arriveront jamais à une position qui sera de dépendre de cette production de leur jardin. Et en réalité, quand on regarde tout ce qui a pu être produit, l'éventail de ce qui a été produit, un des éléments qui semble avoir été le plus prisé, c'est une plante condimentaire. Donc effectivement, c'est une feuille qu'on consomme toujours beaucoup en Asie de nos jours, mais on voit mal effectivement des sociétés baser leur alimentation principalement sur une plante condimentaire. Alors évidemment, il y a d'autres espèces, mais jamais au point de changer le modèle de subsistance et de passer donc à une activité véritablement de production des ressources alimentaires.
Pourquoi ?
C'est une bonne question. Et c'est la question à laquelle il faudrait pouvoir répondre de manière sans équivoque. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça. C'est pas les occasions qui ont manqué aux Jaumont pour éventuellement changer leur système, donc de leur mode de subsistance. Mais ils l'ont jamais fait. Pourquoi ? Bon, ça c'est un peu une autre histoire. Sans doute aussi que embarqué dans une trajectoire qui commençait quand même déjà à être longue quand ces espèces domestiquées ont finalement été connues par ces sociétés de l'archipel. Il n'aura peut-être pas paru si évident et si indispensable que ça de changer tout le modèle de société, puisque là, on est dans la manière qu'on a de penser le monde, finalement.
Alors justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'opposé, il y a une sorte d'exploitation des milieux forestiers absolument invraisemblable, avec des sortes de créations de forêts de châtaigniers, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis que ça leur a peut-être pas paru si évident et si indispensable que ça de changer le modèle de subsistance, puisqu'en fait, ils avaient déjà une logique qui était celle d'optimiser le plus possible leur logique de prédation. Logique de prédation qui allait donc jusqu'à même avoir une activité d'entretien des forêts entourant les sites d'habitat, en coupant les espèces ne servant à rien, en tout cas ne leur servant à rien, ils favorisaient les espèces sur lesquelles ils comptaient, à savoir la châtaigne, le marron, les glands. Et c'est comme ça que se développent des forêts, non pas que les êtres humains les aient plantées, mais...
au point même d'avoir des caries, qui est en général très caractéristique des sociétés qui vivent dans un milieu de production.
Tout à fait. Ouais, il y a des pathologies dentaires que, d'une manière générale, en tout cas en Europe, on a tendance à lier au mode d'existence des sociétés dites néolithiques.
Nous sommes bien sûr aussi dans une sorte de monde sédentaire. La vie s'opère au sein de villages, au sein de longues maisons, probablement peut-être même les premières maisons de la préhistoire.
En tout cas,
allons-y.
Elles sont très anciennes, en tout cas, ça c'est une certitude. Les plus anciennes, je ne sais pas, il y en a beaucoup quand même.
Mais ce sont déjà des villages.
Oui, ouais. Alors c'est toujours la question de qu'est-ce qu'on entend par village, hein. Il y a toujours des problèmes de définition. Mais oui, ce sont des habitats concentrés. Le site de Sendai Maruyama, dans le nord de l'archipel, qui a relancé un petit peu l'intérêt des Japonais pour la culture Jomon au milieu des années 90.
La capitale.
C'est la capitale du Jomon.
Du Jomon,
c'est
oui.
Retrouvé, c'est quand même pas loin de... C'est plusieurs centaines, en fait, de bâtiments. Pas tous en activité en même temps, hein, mais ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de bâtiments pour des sociétés que jusque-là, on estimait avoir été que finalement des chasseurs-collecteurs dont on n'attendait pas une telle capacité à se regrouper et à s'organiser.
Laurent Nespoulou, je rappelle donc pour les auditeurs de France Culture que vous êtes maître de conférence au Centre d'études japonaises à l'INALCO, les Langzo. On est loin de l'image idyllique puisque la société Jomon ne fait vraiment pas dans le développement durable avoir ces pêches collectives aux dauphins absolument invraisemblables jusqu'à surexploiter le milieu.
Ah, c'est effectivement, je pense, une des lectures possibles. On est face à des sociétés qui, grâce à la richesse de leur niche écologique, vont quand même prospérer. Il n'est évidemment pas possible de parler de contrôle de naissance. Quand une société prospère, à un moment donné, il y a forcément des poussées démographiques. Et vient un moment où il faut quand même arriver à nourrir tout le monde, ce qui fait qu'on part au plus pressé. Et viendra un moment où les conditions feront qu'on arrivera à un niveau de surexploitation de la niche écologique dont on dépend. Et on a un certain nombre comme ça de cas dans l'archipel japonais. Alors, c'est des modalités différentes en fonction de la niche écologique, donc. Mais on a un certain nombre de cas où, effectivement, l'activité humaine va au-delà de la capacité du milieu à se régénérer.
C'est par exemple le cas de certaines coquilles consommées en bord de mer,
oui, tout à fait,
et qui forment ces énormes amas de coquilles, ce qu'on appelle les amas coquillés, et que l'on voit petit à petit, dont la taille diminue petit à petit, tellement ils sont surexploités.
Oui, bah alors ça c'est effectivement le cas de la grande baie de Tokyo,
de
du
Tokyo,
temps
ouais.
Où elle était encore plus, parce que la mer était plus haute. Effectivement, oui, on voit que dans le fond des amas coquillés qui sont actifs pendant effectivement de très 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 longues périodes de temps, hein, certains font plusieurs mètres d'épaisseur, où on voit qu'au fond on a de grosses coquilles et puis que petit à petit on voit les coquilles se réduire au fur et à mesure qu'on arrive en haut. Et c'est pas parce que les coquilles sont plus lourdes qu'elles descendent, hein, dans ce cas-là, c'est pas un problème de sédimentation, c'est véritablement que on voit que la pêche, le ramassage, on choisit finalement, on a de moins en moins de choix et qu'un problème s'opère dans les prélèvements. Là.
Le climat a influé sans aucun doute sur cette société. Très favorable au début, il devient de plus en plus difficile à la fin de la période. On peut donc penser que l'agriculture aura été la solution pour pallier les aléas du climat et visiblement il n'en est rien.
Ouais, c'est vrai.
La société normalement réagit à de telles conditions par de l'innovation.
Alors déjà, il y a plusieurs éléments. C'est vrai que vu de notre position à nous maintenant, ou même vu de la position à l'époque des sociétés qui étaient déjà agraires, il est évident que la production alimentaire se serait présentée comme une solution à une crise liée donc à une péjoration climatique. Bah, il se trouve que pour les Jomon, visiblement, ça n'a pas été si évident. Pour autant, il semblerait quand même qu'ils aient perçu le problème, puisque à la fin de ce Jomon, où donc vraisemblablement des problèmes se sont manifestés sur le plan de la subsistance, on voit des logiques toujours plus rationalisantes. Donc on vise à rationaliser le plus possible la gestion des ressources naturelles.
Par exemple, le trempage des marrons.
Voilà, le trempage dans des quantités assez impressionnantes et regroupé donc du fruit de la collecte des forêts. Et puis, et donc, on innove de ce point de vue. Ça pour le coup, c'est assez nouveau. Puis ça va cesser. Ça va cesser. Alors pourquoi est-ce que ces sociétés ont décidé que bon, le travail collectif et intense, c'était bien, mais que venait un moment, on ne sait pas, voilà.
La relation entre Jaumont et Ancêtre des Aïnous, cette population relictuelle est si particulière, a souvent été évoquée. Que sait-on de l'anthropologie des populations Jaumont aujourd'hui? On est toujours un peu dans le flou, j'imagine, sur ce sujet sensible.
Alors c'est un sujet qui est d'autant plus sensible qu'il s'inscrit dans la logique de découverte par les Japonais, par un outil scientifique, hein, en tout cas se voulant scientifique à l'époque, découverte par les Japonais de leurs origines. Lorsque Jaumont a commencé à être théorisé sur le plan archéologique, il y a déjà maintenant plus d'un siècle, hein, quand même, on parle là de la fin du 19e et du tout début du 20e siècle, Jaumont, ce n'était pas japonais. Ça ne pouvait pas être japonais, c'était des poteries qui étaient trop loin des canons esthétiques fixés par l'Antiquité. On n'avait pas encore conscience de ce que pouvaient être les premières sociétés de riziculteurs, hein, par ailleurs. Donc c'était vraiment par rapport aux canons antique qu'on raisonnait. Donc Jaumont était trop bizarre, la poterie Jaumont était trop bizarre pour faire partie du continuum culturel japonais, donc ce n'était pas les Japonais. Et de l'autre côté, on se posait la question de l'altérité Aïnou. Et c'était bien pratique de pouvoir dire que finalement les Aïnou, c'était peut-être un peu les descendants dégénérés de ce qu'avaient pu être les Jaumont. Donc le tout dans une vision évidemment cherchant à déprécier une altérité un peu encombrante.
Certains archéologues parlent de paradoxes, vous parlez de contre-exemples, j'y vois plutôt un modèle alternatif. Quoi qu'il en soit, vous vous posez la question, le Jaumont doit-il être considéré comme une société contre le néolithique, contre la néolitisation?
Alors ça, c'est bien le problème.
Contre la société de production.
Voilà, ça, c'est bien le problème. C'est délicat de nos jours de formuler les choses comme ça, parce qu'après on vous dit que vous êtes ceci ou que vous êtes cela. Mais ce qui est assez net, c'est que dans les modalités de la fin de la période faste, on va dire, de la période Jaumont, il y a des logiques au-delà desquelles la société semble ne pas vouloir s'engager. Ne pas vouloir ou ne pas pouvoir, hein, psychologiquement, s'engager. Il y a effectivement quand même un monde de différence entre des logiques qui se sont construites au fil des siècles, au fil de millénaires, visant à peut-être théoriser la prédation sur le milieu, et donc un monde de différence entre des logiques visant à produire par ailleurs. Et peut-être qu'il n'a pas été possible de passer de l'une à l'autre sans en passer par une phase de dispersion.
En tout cas, tout ça sera balayé autour du 5e siècle et donc la période Yaoi avec l'arrivée du riz.
Voilà, tout à fait.
Laurent Nespoulou, merci beaucoup. Je signale que vous avez fait une très belle synthèse autour du Jaumont, récemment paru dans l'ouvrage « La révolution néolithique dans le monde » publié par l'INRAP et Universcience chez CNRS Éditions. La semaine prochaine, un reportage sur la découverte d'un culte de Mitra, dieu indo-iranien dans la Gaule romaine du 3e siècle de notre ère. Le Salon Noir a été réalisé par Julie Bérissi à la technique Jean Frédérix. Vous pouvez écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le nouveau site de franceculture.com.